protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. L'arrivée d'un nouveau pasteur dans une paroisse est toujours une occasion de réjouissance et aussi de curiosité. Le cas de Montpellier n'y échappe pas. Votre radio préférée s'associe à ces deux sentiments et je remercie Sébastien Gingembre d'avoir bien voulu répondre à quelques questions pour être mieux connu des auditeurs. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous n'êtes peut-être pas familier de nos émissions, je ne sais pas. Alors je vous informe que ça commence toujours par une question sur votre parcours et votre découverte du protestantisme. Alors, est-ce que dans votre berceau, vous avez eu un cadeau des bonnes fées, ou alors est-ce que vous l'avez découvert plus tard ? Est-ce que c'est génétique chez vous dès avant la réforme, ou est-ce que c'est une découverte personnelle ?
Alors, je crois que ce n'est jamais génétique pour personne, fort heureusement. Et pour ma part, non, je n'ai pas grandi dans le protestantisme. Ça a été une découverte personnelle à l'âge adulte.
Et alors, à l'âge adulte, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est pas trop indiscret de vous demander comment cette révélation ou cet approfondissement vous est venu
Alors, révélation, ce serait peut-être un bien grand mot. Alors, je précise que j'ai été baptisé dans l'Église catholique, mais mes parents ne sont pas particulièrement croyants du tout, donc je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, d'éducation chrétienne, il n'y a pas eu de catéchisme, pas de scoutisme. Donc, je suis arrivé à l'âge adulte assez vierge. De tout cela, et naturellement athée, si j'ose dire, je pense comme un bon nombre de nos contemporains. Donc les églises, je n'y avais mis les pieds que pour une poignée d'obsèques.
Oui, c'est en général le cas.
C'est le cas pour beaucoup de monde hein, aujourd'hui. Ouais. Ce n'est pas les circonstances les plus agréables, les plus propices pour une découverte de la foi chrétienne. Et donc c'est vraiment à l'âge adulte, tardivement, après 25 ans, un peu par hasard, finalement, j'ai mis les pieds dans une église catholique un dimanche matin et j'ai assisté à une messe. Et indépendamment du caractère un peu ésotérique et de la gymnastique entre debout, assis, etc., j'ai entendu des paroles qui m'ont touché, les paroles de l'évangile hein, et puis l'homélie, et qui ne correspondaient pas à mes préjugés, je pense largement partagés, sur ce que peut être la foi chrétienne. Vous savez, avec ce bon Dieu barbu sur son nuage qui récompense les gentils et oui. punit les méchants. Bon,
oui.
C'est encore l'image, je pense, que beaucoup de gens peuvent avoir,
oui.
qui a pu être véhiculée dans les églises d'ailleurs.
Oui.
Donc voilà, il y a d'abord eu un temps de cheminement dans l'église catholique et le protestantisme s'est venu encore un peu plus tard, quelques années plus tard.
Mais avant de mettre les pieds dans une église, aucune influence culturelle, des livres ou des rencontres, totalement vierge, vous étiez.
Alors,
par rapport à...
On peut pas l'être totalement parce que on baigne dans cette culture chrétienne à travers la littérature, le cinéma. Je sais que L'Évangile selon Saint Matthieu de Pasolini, c'était un film que j'aimais beaucoup,
ouais.
pour la musique de Bach aussi précisément notamment
hein,
donc je pense que finalement mon tout premier contact avec le christianisme est sûrement passé par le cinéma, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais ça n'allait pas plus loin, mes amis n'étaient pas non plus croyants, ou du moins c'était pas un sujet qu'on abordait. Je pense que la plupart de mes amis ne l'étaient absolument pas.
Et donc, ce que vous avez entendu à la messe, pendant la messe, vous avez parlé de bouleversement des préjugés. Quel était le message qui vous a... Bon, ça a bouleversé le vieillard sur le nuage, etc. Mmh. Bon, l'image traditionnelle de Dieu, mais quelle était l'image qui vous a intéressé finalement ?
Bah, c'était le texte de ce dimanche, je m'en souviens encore, hein, c'était la parabole du pharisien et du publicain, dont de celui qui porte beau devant Dieu, pour le dire un peu vite, le pharisien, et
ouais.
de celui qui simplement se reconnaît pécheur. Moi, j'avais cette image, pas totalement fausse peut-être d'ailleurs, que les bons croyants pratiquants qui vont à la messe ou au culte le dimanche sont des pharisiens en fait. Plus ou moins des hypocrites, sont plus ou moins des gens qui essayent de se faire bien voir devant Dieu, qui cherchent à gagner leur salut. Et évidemment, l'évangile renverse tout ça. Au fond, peut-être que j'étais déjà protestant sans le savoir, parce que ce qui m'a frappé, c'est la gratuité.
Oui.
Ce qu'on appelle le salut par grâce.
Oui.
Voilà ce qui m'a... Alors, je reviens un peu en arrière. Il est sans doute possible que, même sans connaissance religieuse, j'avais un cheminement personnel, existentiel, je m'intéressais à la philosophie, qui m'avait préparé, qui avait préparé le terrain pour recevoir cette semence, cette parole ce matin-là.
Et dans la philosophie, c'était quelle influence dans cette philosophie existentielle, comment ça pouvait préparer un chemin? Il y avait déjà une réflexion, vous avez parlé d'ésotérisme à un moment, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de spirituel? Est-ce que...
Ah, je rectifie quand même tout de suite pour qu'il n'y ait pas de malentendu. J'ai parlé d'ésotérisme à propos du rite de la messe catholique. Ça ne veut pas dire que je m'intéressais moi à l'ésotérisme tout. Ce n'était pas le cas. Non, pour la philosophie, à 20 ans, j'étais un grand lecteur de Nietzsche, comme plein de jeunes gens, j'imagine. J'ai aimé des tas de choses en philosophie. J'ai fait mon mémoire sur Paul Ricoeur, déjà. Voilà,
sur
Ricoeur et la psychanalyse et un autre philosophe. Et donc la psychanalyse qui a continué à m'intéresser, y compris dans ses rapports avec la théologie. Et puis j'aimais beaucoup la poésie. Et je pense que c'est peut-être plus encore la poésie que la philosophie, en lisant des auteurs comme Philippe Jacotet, Yves Bonnefoy, des grands classiques, hein, Pessoa, Gustave Roux et d'autres. Ça a instillé en moi le sentiment qu'il y a plus à vivre, à ressentir, que ce qui se donne immédiatement à voir et à constater. Voilà. Il y a une dimension de plus, poétique, sur laquelle on peut mettre le mot de transcendance peut-être.
Oui. Et alors, cette messe qui vous a apporté quelque chose, enfin, qui a canalisé peut-être tous ces sentiments dans une parole, enfin, qui a permis de concrétiser tout ça, ça vous a touché, mais alors, pourquoi ne pas être resté catholique ?
Le texte de ce jour-là m'avait touché, le reste un peu moins. J'ai cheminé un temps dans l'Église catholique, hein, pendant même quelques années, avec beaucoup de bonheur. J'ai fait de très belles rencontres. Le père Robert, un prêtre qui avait été missionnaire en Afrique pendant plus de 50 ans, et qui était mon voisin, donc on avait vraiment, vraiment beaucoup sympathisé. Je fais partie d'un petit groupe de maison. Après, il y avait toujours des choses qui me gênaient un peu aux entournures. Voilà. Quelque chose d'un petit peu vertical, d'un peu descendant, de trop moralisateur pour moi, un ethos un peu bourgeois, pour le dire un peu simplement. Des choses aussi dans la doctrine très conservatrice sur le plan moral, mais aussi théologique. Alors j'aimais beaucoup discuter, lire des choses. J'ai suivi un parcours alpha parce qu'on m'y avait invité, avec beaucoup de bonheur là aussi.
C'est quoi un parcours alpha ?
Un parcours alpha, c'est pour les gens qui, comme moi à l'époque, sont sur le seuil de l'Église.
Donc, ouais.
Les gens qui n'ont... C'est avant, si vous voulez, de faire un catéchisme d'adulte et de
D'accord.
se faire baptiser, par exemple. Et ce qui était intéressant, alors le contenu des exposés était déjà à l'époque, je trouvais ça tout à fait contestable à bien des égards, ce serait encore plus le cas aujourd'hui, mais nous avions des échanges en petits groupes, donc c'était convivial et on avait une grande liberté de parole. Et là, je pouvais comme ça poser mes questions, exprimer mes désaccords, et j'aimais beaucoup cette dynamique-là, hein, de creuser les choses.
Et est-ce que ça débouchait sur quelque chose de concret, ces discussions, est-ce que ça changeait les choses, ou alors est-ce que c'était juste une façon, comment dirais-je, pédagogique de faire parler les gens? Votre impression?
Oui, je pense, oui. Puis c'est sûrement que le parcours alpha se déroule différemment d'une église à une autre. Hein.
Oui.
Je rappelle, ça peut être mené aussi bien par des églises protestantes que catholiques.
Oui, bien sûr.
Voilà. Je pense que la perspective, la visée du parcours alpha, c'est une visée d'évangélisation.
Ouais.
C'est que des gens se sentent pas seulement consommateurs individuels d'une célébration religieuse de temps en temps, mais vraiment partie prenante de quelque chose d'un peu plus communautaire. Donc le bénéfice premier, je pense que c'était ça, c'était d'intégrer avec un repas partagé. Donc ça, c'était très, très agréable, très, très plaisant. Bon, mais comme je disais, l'orientation générale, un peu charismatique, moi, me convenait assez peu.
C'est-à-dire charismatique.
On met beaucoup l'accent sur l'Esprit Saint.
Oui.
Voilà, la dimension des topos, les exposés, je trouvais ça, j'allais dire presque parfois intellectuellement, pas tout à fait correct. Quoi, voilà.
D'accord.
Mais je me souviens que j'avais dans mon petit groupe la petite nièce de Bernard Sesboué, qui est un grand théologien catholique, jésuite, et je lisais en même temps, parce que je découvrais, j'aime bien lire des bouquins pour comprendre, donc un gros livre qui s'appelait Croire, un livre de vulgarisation, et je pouvais comme ça poser mes questions à la petite nièce qui les fait répercuter dans les repas de famille.
Ouais.
J'en garde de très bons souvenirs. Hein.
Et alors, vous avez même adhéré à un mouvement missionnaire catholique ?
Ah, pas du tout. Non, je n'ai pas adhéré du tout.
Bon, alors,
c'était
expliquez.
Mes voisins. Oui. C'est donc des spiritains
hein,
qui sont un ordre religieux catholique, ouais. Missionnaire, effectivement. Et le prêtre, le curé de la paroisse était lui-même spiritain. Et ils avaient une maison où ils vivaient à plusieurs en communauté. Et c'était vraiment mes voisins. Donc, j'ai sympathisé avec eux. Je n'ai pas adhéré.
D'accord.
Et je gardais leur maison l'été quand ils partaient. J'allais même dormir là, c'était pour par sécurité, parce qu'il avait déjà été cambriolé. C'était vraiment des relations de bon voisinage, d'amitié, de relations fraternelles, hein, effectivement.
Mais c'est pas avec eux que vous êtes parti.
Alors, ils avaient un organisme qui envoie, ils ont toujours d'ailleurs, hein, qui s'appelle Opération Amos, qui envoie des jeunes volontaires
oui.
pour des séjours courts à l'étranger.
Ouais.
Et je suis parti avec eux à l'île Maurice, effectivement, pendant 5 mois. Pendant 5 mois à l'île Maurice, pour essentiellement donner des cours de français, faire un peu d'accompagnement. Enfin, j'ai fait des tas de choses, en fait, là-bas, que je ne m'imaginais pas faire, comme donner des cours de... Enfin, des cours, non. Organiser des séances de méditation, enfin, apprendre la méditation dans un centre de désintoxication. Voilà. Donc, c'était vraiment très, très chouette, une expérience très, très riche.
Et alors, ce côté missionnaire, puisque vous avez été... Dans ce secteur-là, est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous manque en étant pasteur d'une paroisse relativement traditionnelle comme Montpellier, ou est-ce que vous comptez mettre en pratique des choses semblables, pas forcément aller à l'île Maurice, mais sur le terrain autour de Montpellier ?
Alors, c'est évidemment pas transposable, et puis je n'y suis pas allé moi comme missionnaire du tout, hein, encore une fois, hein. c'était comme volontaire, à l'époque je pensais peut-être, pourquoi pas, travailler plutôt dans ce genre de choses, je faisais des cours de quasi-alphabétisation.
Il n'y avait pas de doctrine
pas du tout.
D'accord.
C'était purement profane, hein, mes activités
okay.
là-bas, après je partageais, je vivais avec un groupe aussi de prêtres, de religieux spiritains, mais moi, je n'avais pas d'activité religieuse.
D'accord. Hein. D'accord.
Mais sans doute que c'est en rentrant que, après, que ma vocation est née. Parce qu'effectivement, c'est là-bas que je me suis dit, il y a quand même des tas de gens qui n'entendent pas l'évangile, qui ne se sentent pas légitimes, pas à la hauteur. Il y a tellement à faire. Et oui, c'est peut-être ce que j'ai vu et vécu à l'île Maurice qui a donné l'impulsion ensuite pour que je me dise, il y a des choses à faire aussi en France, en fait.
Et c'est là que vous devenez pasteur, enfin que vous faites des études de théologie. Dès le début, vous avez eu envie de devenir pasteur. C'est-à-dire que quand vous avez commencé vos études de théologie, c'était dans ce but-là ou c'était plus pour la découverte ?
Ah non, pas du tout. C'était vraiment par goût pour la théologie. J'ai commencé les études de théologie. C'était je me suis inscrit au mois de juillet pour l'entrée de septembre. C'était pas du tout prévu parce que j'ai eu une opportunité. J'ai pas repris mon travail tout de suite. Je me suis dit, je vais en profiter pour reprendre des études de théologie parce que j'avais envie de creuser, d'approfondir. Donc c'était vraiment dans cette intention-là d'abord.
Vous aviez un travail.
Moi, j'ai été prof de maths, pendant quelques années. J'ai bossé aussi un peu aux finances publiques,
en
maths, job alimentaire.
Ça ne donne pas une idée de la transcendance, non, pi,
non,
etc.
Pas pour moi, en tout cas, peut-être pour d'autres.
Oui, parce que il y a beaucoup de thèses sur pi. Enfin bon. Qui donne une idée de la transcendance. J'ai reçu quelqu'un ici l'an dernier qui expliquait, qui était un physicien d'ailleurs assez connu, qui expliquait que pour lui, pi c'était Dieu et que 3,14 c'était Jésus. Et c'était pas mal étayé son truc. Si ça intéresse les auditeurs, ils peuvent aller voir sur la barre de recherche dans Thème et Anathème et je ne sais plus le nom, mais enfin bon, ils trouveront le nom de la personne et de cette émission. Alors on va revenir sur les études de théologie. Qu'est-ce qui vous plaît dans les études de théologie ?
Oui, on va laisser les études de mathématiques. Quand même, je réagis parce que, bon, moi, ça me laisse toujours un peu perplexe. Je pense qu'il faut aussi distinguer les ordres. C'est-à-dire que ce qui relève de l'étude des sciences physiques, par exemple, ça peut susciter un sentiment de louange, par exemple.
Hein,
de,
ouais.
Mais je ne pense pas que ça conduise à Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas en déduire que Dieu existe, par exemple, simplement, si ce n'est par conviction personnelle. Mais en tout cas, on ne peut certainement pas en arriver à une preuve mathématique, ni à une démonstration.
Oui.
Bon, ça mérite quand même d'être rappelé, parce qu'il y a des tentatives encore récentes qui ont été faites avec des livres à succès. D'un point de vue purement scientifique. Moi, c'est plutôt la poésie et la philosophie, les questionnements existentiels qui m'ont conduit à la théologie.
Oui, c'est effectivement ces tentatives avec le intelligent design de rattacher
par exemple,
les découvertes physiques catholique, à Dieu, ce qui est toujours d'ailleurs dangereux, parce que, comme l'expliquait le pasteur Louis Pernaud, il suffit qu'on découvre que quelque chose ne colle pas, et à ce moment-là, tout s'effondre si on a bâti notre idée de Dieu. Donc, effectivement. Alors, on revient donc aux études de théologie pure. Donc, qu'est-ce qui vous plaît ?
Très très vaste question. C'est le projet global de la théologie. Une définition possible, c'est l'effort pour comprendre ce que l'on croit. C'est-à-dire mettre des mots sur sa foi, ne pas en rester à quelque chose d'un peu confus peut-être, mais oui, c'est ça, mieux comprendre ce que l'on croit. Et il y a quatre grands champs dans les études de théologie, vous le savez peut-être déjà, le champ biblique. Donc là, on va apprendre à lire les textes bibliques. Alors, on peut les lire sans avoir appris à les lire, mais on va apprendre le grec et l'hébreu. On va avoir des méthodes un peu rigoureuses, un peu scientifiques, pour éviter aussi quelques contresens, quelques malentendus, et pour en dégager de plus en plus de pépites du texte biblique. Il y a le champ historique, et là, on se plonge, par exemple, moi j'ai eu les cours de Mathieu Arnold à Strasbourg sur Luther, et c'était absolument passionnant, il en a fait un livre depuis, donc sur l'histoire de la réforme, par exemple, entre autres choses, évidemment, l'histoire, c'est les 2000 années, voire plus, qui se sont écoulées, l'Antiquité chrétienne, c'est passionnant, mais j'ai surtout été marqué par le cheminement existentiel du moine Martin Luther et cette percée réformatrice, ce retournement. Je me suis sûrement un peu reconnu dans le personnage, enfin j'espère pas trop les mauvais côtés de Martin Luther, parce qu'il y en a aussi, n'est-ce pas? Je passe de son tempérament du tout, mais voilà, ce moment où il entend à nouveau l'évangile, que la justice de Dieu, c'est pas une justice où c'est à nous de faire des choses pour être récompensés ou punis, mais c'est une justice gratuite.
Et vous étiez, alors je n'aime pas beaucoup cette question, mais je vais la poser quand même, vous étiez déjà protestant à cette époque-là ?
Oui. Quand j'ai commencé les études...
J'aime pas beaucoup les catégories, mais...
Oui, enfin déjà protestant... Bon, voilà. Oui,
vous sentiez protestant.
Je me reconnaissais dans la foi chrétienne, dans son expression protestante. Mais déjà même avant de partir à l'île Maurice, j'avais déjà... j'avais découvert d'abord, vraiment, la toute première découverte, je pense que le protestantisme, je l'ai découvert sur Internet. Ça peut sembler un peu...
Non, vous n'êtes pas le seul.
Voilà, je pense que je ne suis pas le seul aujourd'hui. Non. Et notamment grâce au site Internet de l'Oratoire du Louvre à Paris.
Oui, bien sûr.
Mais là, c'était encore un intérêt purement intellectuel. Et c'est à l'île Maurice que j'ai vraiment... mis les pieds dans un temple pour la première fois de l'église presbytérienne là-bas. Et vraiment là aussi par hasard, parce que j'ai croisé des personnes que je connaissais qui étaient des SDF que je côtoyais dans une maison d'accueil de jour et qui s'y rendaient parce qu'ils bénéficiaient de l'entraide et ils allaient auparavant au culte. Je me suis dit, tiens, je vais venir avec vous. Parce que le protestantisme, je trouvais ça intéressant, ça faisait réfléchir, etc. Mais bon, voilà, là j'ai vécu un culte. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, voilà ce que je recherche. Je me suis débarrassé un peu de tout ce qui me gênait dans l'Église catholique, à laquelle je reste reconnaissant pour ce que j'ai reçu aussi. Et là, bon, que ce soit la beauté des psaumes, le style de la prédication, la simplicité, là, je m'y suis vraiment retrouvé.
Et alors, donc, vous devenez pasteur dès la fin de vos études de théologie. Vous laissez tomber les maths, l'enseignement des maths, et vous devenez pasteur.
Oui, il faut... Il y a quelques années qui s'écoulent, évidemment, dit comme ça,
façon,
ça a l'air très rapide, mais oui, après, au fil de mes études en théologie et de mon engagement dans mon église à Lille, où je commençais à faire le catéchisme, je m'occupais du groupe de jeunes, on m'a proposé d'entrer au conseil presbytéral, donc petit à petit, on met un doigt, et puis c'est tout le bras et le reste qui sont pris dans la machine. Et puis, la question de la vocation est apparue, évidemment, au cours des études, oui.
Alors, on a vu ce qui vous plaisait dans le ministère. Enfin, on n'a encore pas parlé du ministère, mais on peut deviner déjà ce qui vous plaît dans le ministère, c'est la théologie. Mais on va parler des autres choses.
Oui, pas seulement, tout de même.
Voilà, on va parler des autres choses. Eh bien, commençons par parler des autres choses qui vous plaisent dans le ministère de pasteur, donc.
Beaucoup de choses. Ce qui est formidable dans ce métier, c'est un métier, c'est aussi une profession, c'est la diversité des choses que l'on y fait, comme des émissions de radio, par exemple.
Ouais.
Ce que j'ai découvert, je n'avais jamais fait de radio avant d'être pasteur. Donc, dans mon premier poste à Clermont-Ferrand, j'animais une émission hebdomadaire sur les antennes de RCF.
Ah si vous avez du temps, il faudra venir.
Avec plaisir. Donc cette dimension de communication... Non, je parlerai de la diversité des rencontres, parce que c'est pas de la théologie hors sol. Quand on est pasteur, on passe pas son temps dans sa tour d'ivoire à lire de la théologie, hein, soyons clairs. On rencontre des tas de gens, de la naissance à la mort, si j'ose dire, les proches des défunts que l'on accompagne pour les services funèbres. Et vous aurez beaucoup de pasteurs, en tout cas tous ceux que j'ai connus et avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, disent que ça fait partie des choses qu'ils apprécient beaucoup.
Les enterrements.
Les services, oui, les cultes services, d'action, oui, de grâce, ou services, oui, funèbres, oui, appelez ça, oui, comme, oui, vous voulez. Parce que là, c'est des moments qui ont vraiment du sens.
Oui.
Des moments très riches. Oui. Moi, j'apprends beaucoup. Je suis toujours épaté de la confiance que des personnes que je ne connais pas, parce que c'est souvent des gens qu'on ne côtoie pas, oui, dans l'église, hein, de la confiance qu'ils me font pour raconter des choses sur leur famille. C'est vraiment très beau. Enfin, voilà, c'est de l'humain, quoi. C'est de la théologie en acte, la théologie pratique, là, pour le coup.
Et qu'est-ce qui vous... Alors, bon, il y a les rencontres, effectivement, il y a cette communion, finalement, ce que vous apportez, puisque vous recevez des gens que vous venez de décrire, notamment au niveau des cultes d'action de grâce. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez qui sont spécifiques à ce ministère de pasteur ? Vous avez parlé de la confiance. Est-ce que cette confiance, vous la ressentez aussi à d'autres niveaux, pas seulement lors des cultes, lors des enterrements, lors des célébrations funèbres?
Oui, je parlais des actes, ce qu'on appelle les actes pastoraux, oui, c'est aussi les mariages, les bénédictions de mariage, les baptêmes, qui supposent tout un temps de préparation. Et c'est vraiment là qu'on se rencontre, hein. C'est pas le jour, c'est pas le rite en tant que tel.
Oui, oui.
Après, il y a tout ce qui concerne la vie communautaire.
Oui.
De l'église. Je parlais tout à l'heure du parcours alpha, de cette, ce côté très agréable, très chaleureux, de se retrouver pour un repas partagé. Évidemment, c'est aussi ce qu'on essaye de vivre en église, ce que je m'efforce d'impulser aussi ici à Maglone, dans le secteur centre-ville de l'église protestante unie de Montpellier. C'est pas toujours simple, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des tempéraments, il y a des vieux conflits qui traînent parfois. Voilà, c'est bon, comme disait un prêtre, hein, que j'ai connu, mais je pense qu'il l'avait emprunté à peut-être à François de Sales ou à Montaigne, je ne sais plus. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. L'hommerie,
oui, ouais,
ouais. Je pense que tout est dans le mot, c'est-à-dire bon, bah, des,
oui,
difficultés, des,
ouais,
des sensibilités, et tout ça peine à s'accorder dans toute communauté, y compris en église.
Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous plaisent, alors je vais poser une question, disons plus polémique peut-être. Qu'est-ce qui vous déplaît
Dans le ministère métier, ouais, de pasteur, dans le métier de pasteur?
Je ne parle pas à Montpellier parce qu'il ne faut pas dire des choses, mais parce que vous avez fait avant. À
Allez.
Montpellier, je suis sûre que rien ne va vous déplaire.
Vous allez me griller pour la suite, là.
C'est pour ça que je pose la question sur le ministère d'avant.
Non, soyons honnêtes quand même, parce que je pense,
oui,
que des tas de collègues le diraient peut-être pas à la radio, mais au moins entre eux. Il y a d'une part la lourdeur des charges que je dirais administratives.
Ouais.
Beaucoup de mails à traiter, beaucoup de, parfois même de paperasse, beaucoup de réunions.
Ouais.
On est souvent atteint de réunionnite en église. Et plus l'église est grosse, importante, et plus c'est le cas. Et Montpellier, c'est une grosse église, évidemment,
ouais,
par rapport à celle où j'étais auparavant. Ici, on est quatre pasteurs. C'est chouette pour pouvoir travailler en équipe. On a quatre secteurs. On a donc des conseils de secteur qui doublent le conseil presbytéral, ce qui fait des réunions supplémentaires, beaucoup de commissions. Voilà. Donc, c'est un peu l'usine à gaz au bout d'un moment.
Oui.
Donc là, il y a des choses peut-être à penser. Et je trouve que parfois, on est un peu trop dans une logique presque entrepreneuriale, de performance, au lieu de vivre vraiment la gratuité. On veut aussi parfois peut-être remplir. À la fois remplir nos agendas, remplir l'agenda de l'Église avec des tonnes de propositions.
Il
me semble que peut-être que l'Église, remplir nos temples,
c'est
toujours, on veut toujours attirer des jeunes,
oui,
comme on dit.
Oui.
C'est horrible l'expression, attirer,
oui,
des jeunes.
Oui,
ouais,
oui,
il faudrait,
c'est assez horrible. C'est... Pour les jeunes et pour les vieux, d'ailleurs.
Oui, tout à fait, pour tout le monde, au,
oui,
final.
Ouais,
on,
ouais,
met les jeunes dans un grand paquet, là, comme ça, comme s'ils se ressemblaient tous et qu'il y avait une,
ouais,
recette, peut-être, pour les attirer tous.
Ouais.
Les attraper tous, hein, comme on dit, des Pokémon. Voilà, donc je pensais peut-être à ça. Après, ce qui n'est pas simple, le deuxième aspect dans le métier de pasteur, c'est que ben, y a pas d'horaire. On a un jour de repos par semaine.
Oui,
hein,
oui, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Et ben, on a tendance à se rendre, surtout quand on essaye de bien faire, comme c'est un métier vocationnel,
ouais, ouais,
on a tendance à se rendre un peu tout le temps disponible sans se mettre de limites.
Ouais.
Donc, faut
risque
pas
de
se.
Burn-out.
Voilà, et. faut pas se voiler la face, il y a beaucoup de burn-out chez les pasteurs.
Ah oui,
ça a été le sujet de notre dernière pastorale régionale, la première pour moi ici en, en région Cévennes, Languedoc-Roussillon, pour essayer de prévenir ça, parce que c'est un constat. Voilà,
c'est pas étonnant, les gens n'hésitent pas à vous solliciter, même quand ils savent que vous êtes en congé, en disant que, bah oui, mais eux, ils ont besoin et que, bon, bah...
Mais c'est mieux encore. Alors ça, ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à plusieurs collègues. Qui ont vraiment vécu la même chose, hein. C'est leur jour de congé, imaginons que ce soit le mercredi, les paroissiens vont taper à leur porte, ils disent mais c'est mon jour de congé aujourd'hui, bah, oui, bah, justement je viens aujourd'hui parce que je sais qu'aujourd'hui tu es disponible.
Non.
C'est quand même assez, voilà.
J'y crois pas.
Donc là il y a quelque chose qui est pas simple, dans l'équilibre à trouver entre vie publique professionnelle et vie privée, familiale.
Bah,
Bon, je m'en plains pas trop hein, pour ma part, mais je me dis, faut quand même y penser pour... Beaucoup de pasteurs, c'est pas si facile à vivre.
Et alors pourquoi Montpellier ? Pourquoi venir à Montpellier maintenant ? C'est le sud, c'est le soleil, c'est le...
Ah non, pas particulièrement, même si en octobre je trouve ça très agréable, mais l'été beaucoup moins. C'est, au contraire, je pense que la chaleur du sud aurait pu me faire hésiter à venir, très sincèrement. Je suis un homme du nord, hein, de Lille, à la base. Donc, pourquoi Montpellier ? Bah, d'une part parce que l'église de Montpellier m'a sollicité, m'a contacté. J'ai un peu tendance à j'aime bien me laisser appeler, voilà, après réflexion quand même, hein, mais c'est la première église qui m'a contacté parce que j'arrivais à la fin de mon mandat à Clermont-Ferrand, où j'ai passé 6 années vraiment très très, très chouettes. Et puis, bah, c'était un tout autre contexte, je trouvais ça intéressant d'être vraiment dans une grande ville avec d'autres pasteurs pour pouvoir travailler à plusieurs. À Clermont, j'étais très isolé, il n'y avait pas de pasteur à moins d'une heure ou une heure et demie de voiture, donc évidemment pour se voir, ce n'était pas évident. Et puis, bah, le temple de Maglone, comme j'ai fait mon master à Montpellier en théologie, bah, oui, j'allais écouter James Woody à l'époque et je trouvais ça chouette. Enfin, j'aimais bien ce lieu. Voilà, j'aime bien la ville de Montpellier, je la trouve très belle. Et je me disais qu'il y avait du potentiel, il y avait des choses à faire. Il y a du passage en plus devant ce temple de Maglone tout le temps. Et je le constate depuis que je suis arrivé. Après, c'est vrai que c'est une autre atmosphère qu'une paroisse plus petite où vous faites communauté plus facilement que dans une paroisse de centre-ville où il y a beaucoup de brassage. Évidemment, on est un peu plus anonyme, donc voilà, il faut travailler peut-être à créer du lien.
D'accord. Alors, je voulais vous poser une question sur vos projets, mais je m'aperçois que le temps est passé. On n'a pas vu filer, mais bon, le temps est passé. Et donc, on va s'arrêter là, mais on se retrouvera peut-être d'ici quelques temps pour faire le point, justement, évoquer vos projets, ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire. Enfin, si vous le voulez bien.
Avec plaisir.
On se retrouvera. Alors, je vous remercie, Sébastien. Ben, je vous souhaite, au nom de la radio, une bonne... je ne vais pas dire installation, ça fait déjà un petit moment que vous êtes là, mais enfin bon, un bon début pastoral et puis une bonne suite. Et puis ben, je remercie nos auditeurs de leur fidélité et je leur dis à bientôt. Au revoir.
Au revoir.